Et nous recevons aujourd'hui Charlène Fontalbe, infirmière de rapatriement sanitaire et de régulation médicale.
Bonjour Charlène, comment allez-vous? Nous sommes en 5 et 8 au Collège Montaigne à Conflans-Sainte-Honorine. Nous allons maintenant nous présenter à tour de rôle. Abigail.
Wanders.
Camissa.
Lucas.
Noah. Iman.
Leïla.
Noé.
Grace.
Ornel.
Nous vous remercions d'être ici présents parmi nous. Nous nous intéressons à votre métier et nous allons maintenant vous poser des questions.
À quel âge avez-vous commencé le métier et depuis combien de temps l'exercez-vous?
Alors, j'ai eu mon diplôme d'infirmière en 2011, donc j'avais 24 ans. Donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis infirmière.
En quoi consiste votre métier?
Alors, moi, je ne suis pas du tout une infirmière à l'hôpital. Je pense qu'on vous l'a déjà dit. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais moi, je suis une infirmière de rapatriement sanitaire et de régulation médicale. Donc, ce n'est pas du tout un métier d'infirmière lambda à l'hôpital ou à la maison.
Quels sont les différents types d'infirmières?
Alors, l'infirmière générale, elle va avoir deux rôles auprès du patient. Elle va avoir le rôle donc, d'appliquer les prescriptions des médecins, de surveiller les traitements mis en place. Donc ça, c'est tout ce qui va être le rôle un peu prescrit sur ordonnance du médecin. Et elle a également un autre rôle, c'est de veiller au bien-être du patient. Donc, par exemple, faire les soins de confort, l'aider à faire sa toilette, surveiller qu'il a une bonne alimentation, combler un peu les petits besoins qu'il ne peut pas faire lui-même. Donc ça, c'est vraiment à l'hôpital. Il y a aussi des infirmières donc, scolaires, il y a des infirmières en entreprise, il y a des infirmières aussi quand on fait un petit peu plus d'études. Après le diplôme d'infirmière, vous avez des infirmières de bloc opératoire, anesthésistes, puéricultrices, sages-femmes aussi. Vous pouvez reprendre vos études pour être sage-femme. Donc voilà, vous avez vraiment une étendue d'infirmières dans plein de domaines.
On dit souvent que les femmes sont plus douces que les hommes, qu'en pensez-vous?
Vous m'avez fait bien rire cette question. Non, je connais des infirmiers qui sont très très doux et des infirmières qui le sont un peu moins. Donc c'est vraiment chaque individu est particulier et puis a sa propre sensibilité. Ce n'est pas une question de sexe. Voilà.
Quel est votre parcours pour arriver à ce métier?
Alors, pour avoir le diplôme d'infirmière, il faut avoir le bac. Et ensuite, c'est donc n'importe quel bac. Et ensuite, il faut faire 3 ans au sein d'un institut de soins infirmiers. Au bout de 3 ans, vous avez votre diplôme. Et ensuite, vous vous spécialisez ou non, vous pouvez directement attaquer le métier d'infirmière après ces 3 ans-là.
Quel est votre pire souvenir? Quel est votre meilleur souvenir?
Ça, c'est compliqué parce que j'en ai pas un pire et un meilleur. J'en ai plein de bons souvenirs quand on arrive à soulager le patient, à discuter avec la famille, que tout le monde est content, qu'il est bien pris en charge. Quand, par exemple, les rapatriements, c'est quand... Donc, c'est ce que je fais actuellement. C'est quand quelqu'un s'est blessé dans un pays, n'importe où dans le monde, s'est blessé ou il a une maladie, il est hospitalisé à l'étranger, ben, on va le chercher. Donc, moi, je vais le chercher soit avec un avion commercial, soit avec un avion sanitaire, soit une ambulance... pour lui prodiguer les soins durant les transports et le ramener dans son pays, en France, la plupart du temps en France, pour la suite de sa prise en charge. Et c'est vrai que c'est beaucoup de logistique et beaucoup de... Je dirais de ouais, il y a beaucoup d'aléas, donc quand ça se passe bien, c'est vraiment... C'est un accomplissement de la mission. Et on a aussi... durant les rapatriements, on n'a qu'un seul patient. Donc c'est vrai que quand on prend en charge le patient dans sa globalité, qu'on prend le temps d'être avec lui... Je me rappelle d'une petite jeune fille qui venait d'avoir un diabète. ses parents n'étaient pas présents avec elle. Elle était à Saint-Barth. Saint-Barth, c'est dans les Caraïbes. C'est une petite île. J'ai passé beaucoup de temps à lui montrer les formulaires, les formulaires sur le diabète, comment prendre en charge cette maladie. Et elle m'avait beaucoup remerciée. Et ça l'avait, je trouve, beaucoup aidée pour une maladie qu'elle va avoir à vie. Et ça, c'était vraiment un beau souvenir. Je me suis sentie utile, en tout cas. Et les pires souvenirs, malheureusement, c'est quand les patients décèdent. Et la mort est compliquée. C'est notre quotidien, mais c'est compliqué aussi à le vivre, à supporter la famille pour que ça se passe bien. C'est vraiment les pires moments de notre métier, malheureusement. Mais après, c'est le cycle de la vie et puis on est là aussi pour soutenir tout le monde.
Quel est le salaire des infirmières ou infirmiers
après l'obtention du diplôme, donc après le bac, après ces 3 ans, si vous rentrez dans un hôpital public, vous tournez autour de 1800, 1900 euros. Si vous rentrez dans un établissement privé, vous êtes un petit peu mieux payé. Ça tourne. Moi, début de carrière, j'étais aux alentours de 2000 euros. Et après, ça va dépendre des primes. Moi, par exemple, ça dépend aussi du nombre de rapatriements que je fais dans le mois, des heures supplémentaires, etc. Donc là, ça peut monter jusqu'à 4000 euros. C'est tout dépend. Ça va du simple au double.
Combien faites-vous de kilomètres par jour ?
Pour aller à mon travail ou pour prendre en charge les patients ? Pour aller à mon travail, j'ai à peu près une heure aller, une heure retour, donc à peu près 2 heures.
Avez-vous des animaux domestiques et avez-vous assez de temps pour eux ? Sinon, est-ce que c'est à cause de votre travail ?
Oui, j'ai un chien, un dalmatien, un gros chien. J'arrive à m'en occuper sans problème. Après, moi, j'ai ma fonction particulière fait que je fais moi-même mon planning. Je dis si, par exemple, je veux travailler tel jour, je veux pas travailler tel jour. Et puis, en fonction, je m'organise aussi avec mon petit garçon. Et je vis en couple. Donc, quand je suis pas là, quand je pars en voyage pour ramener les gens en France, j'ai la personne avec qui je vis qui prend le relais. Donc ça, c'est plutôt confortable.
Y a-t-il le plus d'hommes ou de femmes dans ce métier et pourquoi ?
Alors, il y a plus de femmes. Il y a encore toujours plus de femmes dans le métier d'infirmier. Je pense que c'est dû... il y a plusieurs années, c'était exclusivement un métier de femmes. Et puis, petit à petit, ça se démocratise. Enfin, il y a plus d'hommes là actuellement qui rentrent dans la formation et qui deviennent infirmiers. Voilà, donc petit à petit ça va changer.
Est-ce que vous avez assez de temps libre en dehors de votre temps de travail ?
Alors effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est moi qui gère un petit peu mon planning, qui dit quand je veux travailler, quand je veux pas travailler. Donc ça me permet d'avoir du temps pour mes loisirs et puis pour me reposer aussi.
Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous rendre au travail ?
Alors pour me rendre au travail, j'utilise la voiture parce que je travaille à Châtillon, c'est dans le sud du 92. Et sinon, pour les rapatriements sanitaires, donc ça peut être, comme je disais, l'ambulance, l'avion sanitaire, les avions de ligne que tout le monde prend. Ça peut être aussi parfois le train.
Combien de kilomètres faites-vous quand vous partez dans un pays étranger ?
Ça dépend où je vais chercher le patient. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les mois, je dis que je suis disponible 3 jours, 4 jours ou seulement une journée. Et en fonction des rapatriements qu'il y a à faire, on m'appelle et on me dit « Charlène, tu vas chercher tel patient qui a telle pathologie dans tel pays. » Donc ça peut être... le Vietnam, ça peut... Comme Dunkerque, ça dépend. Ça va dépendre.
Y a-t-il beaucoup de stéréotypes dans votre travail ?
Je pense qu'il y en a
Il y en a toujours encore un petit peu, ça, pareil, ça évolue. Il y en a encore pas mal. Par exemple, s'il y a un médecin femme qui va rentrer dans une chambre avec un infirmier donc homme, le patient va forcément s'adresser à l'homme en tant que médecin. Et ça, c'est vrai que c'est assez habituel, mais bon, ça va changer. Ça va changer. C'est encore ancré dans les mentalités, en tout cas, que l'infirmière, c'est la femme et l'homme, le médecin.
Existe-t-il des simulateurs type vidéo pour vous exercer avant de pratiquer ?
Alors, c'est vrai que ça existe. Moi, je n'ai jamais fait de simulation virtuelle, en tout cas. J'ai fait des simulations sur un mannequin pour le massage cardiaque, pour... vérifier une sonde d'intubation. Après, c'est vrai que là, mon métier, je ne suis plus... j'ai pas de contrat à l'hôpital, mais comme je fais des rapatriements sanitaires et que je fais des soins aux malades, pour se tenir un petit peu, pour être à jour, souvent, je regarde des vidéos sur YouTube pour me rappeler un petit peu comment on pose un électrocardiogramme. Enfin, en tout cas, il y a une formation continue. Et on est tous obligés aussi de travailler à l'hôpital quelques jours par mois pour se remettre au goût du jour. Donc voilà, il y a les vidéos, il y a les mannequins et il y a aussi notre pratique quotidienne pour se tenir à jour. Mais effectivement, j'ai vu que ça venait de sortir, les simulations virtuelles. Ça, je trouve ça assez top. J'ai jamais fait.
Comment vous voyagez ? Beaucoup ? Où êtes-vous allé ? Et qu'avez-vous vu ?
Alors, j'ai vu beaucoup de pays. Donc, je suis partie en rapatriement en Thaïlande, en Afrique, donc au Cameroun, au Maroc, au Japon. Ça, c'était génial. Dans les Caraïbes, donc Saint-Barth, les Antilles, la Guadeloupe, Martinique. Et puis l'Europe, bien sûr, Portugal, Espagne, Italie et la France. Voilà, des fois, on fait des rapatriements un peu plus courts en France. Donc, voilà, ça dépend.
Que faites-vous quand il y a beaucoup de patients ?
Alors, lors des rapatriements, je prends en charge un seul patient. Donc ça, c'est vraiment très, très confortable. On est là de A à Z... durant le transport et on lit vraiment une relation privilégiée avec le patient. À l'hôpital, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on a beaucoup de patients, on va gérer l'urgence, on va solliciter l'aide de nos collègues et parfois, par exemple, durant la crise sanitaire, on s'oublie un peu. Donc des fois, on n'a pas le temps d'aller aux toilettes, on n'a pas le temps de manger... C'est compliqué quand il y a beaucoup de patients et puis on a moins de temps à leur consacrer, moins de temps pour communiquer avec eux, moins de temps pour prendre soin d'eux de global. On fait les soins d'urgence. Voilà.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Vous a-t-on forcé à le faire ? Est-ce que vous nous le recommandez ?
Non, on ne m'a pas forcé à le faire. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, pour une infirmière générale, vous avez le brevet, le bac, vous faites 3 ans dans une école d'infirmière. Moi, j'ai pas du tout eu ce parcours-là, et pas du tout. Infirmière, c'était pas ma vocation première. Je savais pas ce que je voulais faire. Je suis partie en filière générale, ça m'a pas forcément plu. J'ai pas accroché. Je suis partie en filière professionnelle, donc j'ai eu un BEP secrétariat. Pareil, je ne voulais pas devenir secrétaire ou assistante de direction et j'ai beaucoup travaillé pour retourner dans la filière générale qui ouvre beaucoup plus de portes pour les métiers parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis partie dans un BTS communication. Idem, ça m'a pas beaucoup plu, c'est pour ça que j'ai eu mon diplôme à 24 ans, j'ai perdu beaucoup de temps, mais bon, au final, avec le recul, c'est pas grave de pas savoir ce qu'on fait, c'est pas grave de perdre du temps, tant qu'on s'accroche, qu'on travaille, et puis qu'on a le déclic, au bout d'un moment, il faut avoir le déclic. Et je me suis dit, j'ai envie de prendre soin des autres.
Donc je me suis renseignée au CIO, je ne sais pas si ça existe encore, c'est le Centre d'information et d'orientation. Et là, elle m'a présenté plein de métiers, et comme je savais que je voulais prendre soin des autres, elle m'a présenté le métier d'infirmière et ça m'a plu. Donc j'ai passé le concours et je l'ai eu. Voilà mon parcours, mais on ne m'y a pas forcé, pas du tout. Et effectivement, je vous le recommande, parce que quand vous avez votre diplôme d'infirmière, ou d'infirmier d'ailleurs, vous pouvez partir dans plein de domaines, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous pouvez être infirmière scolaire, infirmière d'entreprise, vous pouvez être infirmière libérale, donc c'est les infirmières qui vont à domicile. Vous pouvez être infirmière à la campagne, sur des bases militaires, sur des bases pétrolières. À l'étranger, vous pouvez vous expatrier, travailler au Canada, travailler à Mayotte. Vous pouvez faire plein de choses, ça vous ouvre vraiment plein de voies.
Êtes-vous capable de vous soigner vous-même ?
Oui, dans la mesure où j'ai pas besoin d'un médecin pour avoir des prescriptions ou des examens, oui, je vais tenter de me soigner moi-même, mais c'est quand même mieux d'aller voir un spécialiste pour ça.
Est-ce que parlez-vous des langues étrangères ?
Alors, dans mon métier, oui, je suis amenée à parler anglais la plupart du temps. Et j'étais pas du tout forte à l'école en anglais, mais c'est en pratiquant, en regardant des séries sous-titrées, et ça m'a beaucoup aidée.
Est-ce que médecin et infirmière, c'est pareil ?
Non, c'est pas pareil. C'est vraiment deux métiers différents, et le médecin n'est pas le supérieur de l'infirmière. C'est pas son chef. C'est vraiment deux catégories différentes qui travaillent ensemble, et l'infirmière va appliquer les prescriptions. Donc si par exemple il dit que le patient doit recevoir par perfusion son antibiotique, bah, l'infirmière va le faire.
Qu'avez-vous fait à l'intervention de tout à l'heure ?
Ah, l'accident ! Alors, l'accident était juste en bas de ma rue, la voie était complètement bloquée, j'ai pas vu l'accident. Par contre, il n'y avait ni les pompiers ni les victimes, donc je pense qu'ils devaient être là depuis un bon moment. J'ai juste vu les carcasses de véhicules sur le côté. Voilà, donc ça a bloqué la rue, mais moi, j'ai rien pu faire en tout cas. Mais effectivement, c'est dans notre fonction, c'est ancré en nous quand on est infirmière et qu'on voit quelqu'un qui n'est pas bien, que ce soit un accident ou autre dans la rue, même si on n'est pas en train de travailler, on va aider les autres. Je pense qu'il n'y a pas un seul infirmier qui passe à côté de quelqu'un qui ne va pas bien et qui ne fait rien. Et ça serait bien que ça soit aussi généralisé à la population, à tout le monde, de savoir faire un massage cardiaque, de savoir faire des compressions au niveau de l'abdomen pour pouvoir sortir un aliment ou quelque chose qui est coincé dans la bouche. Ça permet de sauver des vies. Et je pense que vous avez tous, au bout d'un moment, dans le parcours, la formation de gestes d'urgence.
Est-ce que vous avez déjà embrouillé avec une autre infirmière ?
Ah ! Oui, ça arrive forcément dans tous les métiers, il y a des conflits. Après, ce qui prime vraiment, c'est le patient. Donc, par exemple, on ne va pas se disputer devant le patient, on est en conflit lors du soin. On va faire le soin et puis après, on va s'expliquer loin du patient. Mais oui, ça arrive, je pense, comme partout.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous disputer, par exemple, sur la maladie qu'il a ou pas ?
C'est vrai que des fois, on s'attache beaucoup au patient. On a du mal à... Enfin, c'est très compliqué de mettre une barrière entre un patient et un infirmier. Et des fois, quand ils sont là depuis longtemps ou que la maladie nous touche et qu'on voit qu'il est vraiment pas bien, des fois, on a du mal à c'est compliqué, mais on a du mal à le considérer comme juste un patient. Et des fois, on va trop s'en rapprocher. Et on aimerait des fois que ça aille plus vite au niveau des examens, au niveau de la prise en charge. On comprend le système, on comprend l'organisation, que des fois, il y a des urgences qui doivent être prises avant lui.
Donc on fait notre maximum, pardon.
Quand un patient meurt, est-ce que c'est vous qui appelez la famille ou d'autres personnes?
Quand un patient meurt.
Ah d'accord. Alors quand il est décédé seul, donc la plupart du temps la nuit, quand il n'y a pas de visite, on appelle le médecin, parce que les médecins ne sont pas forcément dans les services. Donc on prévient le médecin. Soit c'est le médecin qui appelle la famille, soit c'est nous qui appelons la famille et on ne dit rien par téléphone, parce qu'on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas s'ils vont prendre la voiture pour venir. On va leur demander de venir à l'hôpital et on leur annoncera le décès lors de leur arrivée.
Vous avez dit que c'était possible d'avoir des conflits avec les infirmières, enfin entre vous. Mais est-ce que c'est aussi possible de se disputer avec un patient?
Oui, on essaye de rester professionnel au maximum, mais c'est vrai que des fois, on a à gérer des caractères particuliers qui n'entendent pas forcément les choses qu'on dit. Et des fois, il faut recadrer. Il faut recadrer les choses, ouais.
Est-ce que vous arrivez à parler avec le patient quand tu viens d'un pays étranger?
Oui, alors s'il parle anglais, tant mieux, on peut dialoguer. Sinon, il y a des traductrices, à l'hôpital pour pouvoir communiquer avec lui. C'est primordial de savoir comment il se sent, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a des antécédents médicaux, est-ce qu'il a de la famille. Donc il y a des traductrices si jamais il parle une langue étrangère qu'on ne connaît pas.
Est-ce que vous savez combien ça gagne la personne qui traduit?
Traducteur à l'hôpital, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est un peu plus que le SMIC. C'est un peu plus que le SMIC, mais je ne pourrais pas vous dire combien exactement.
C'est quoi le SMIC?
En gros, c'est le salaire minimum que touche une personne lorsqu'elle travaille en France, pour pouvoir vivre décemment.
Ouais. Et votre salaire, c'est tous les mois que vous le gagnez?
Oui, un salaire, c'est tous les mois. C'est tous les mois. Aux États-Unis, il me semble que c'est toutes les semaines, mais en France, c'est tous les mois.
Ça fait beaucoup, 4 000 euros tous les mois.
Alors oui, 4 000 euros, c'est vrai, tous les mois, c'est beaucoup. Après, c'est pas tous les mois, c'est parce que je travaille beaucoup, parce que je fais des heures supplémentaires, parce que je pars beaucoup à l'étranger, donc forcément, je gagne plus. Et si je fais mon temps de travail habituel, non, ça tourne autour plutôt des 2500 euros, pardon.
Si vous faites des heures supplémentaires, vous gagnez combien en plus?
C'est exactement ça, en fait, ça va du simple au double. Et puis moi, je suis dans une entreprise privée, donc j'ai aussi ce qui s'appelle le 13e mois. J'ai des prix. Le 13e mois, c'est un salaire en plus, c'est considéré comme une prime. Quand l'entreprise fait aussi beaucoup de bénéfices, on touche de l'argent en plus. Voilà, il y a tout ça qui rentre dans mon salaire. Et c'est pour ça que c'est variable. Ça dépend des mois.
Elle s'appelle comment, votre entreprise?
Alors, je travaille pour AXA Assistance. Donc, AXA Assistance, c'est... Je pense que AXA, c'est une assurance. Donc, les gens payent leur assurance de maison, de carte bleue. Et dans leur assurance, ils ont l'assistance. L'assistance, c'est quand... ils ont un problème avec... ils se sont fait cambrioler ou ils ont un problème médical. S'ils ont un problème médical, ça sera nous qui alerterons en disant voilà, je me suis cassé la jambe au ski à Méribel, il faut me ramener chez moi ou me ramener à l'hôpital à côté de chez moi, ou je suis partie en Thaïlande et puis j'ai attrapé une intoxication alimentaire, ça va pas bien, faut me ramener, voilà.
Vous écoutez quel style de musique?
J'écoute de tout, en fait. Ça dépend des moments. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap, mais je pense que vous connaissez pas, par exemple, Sniper.
Si,
on connaît. Si ? Ouais, donc Sniper, I Am. Et puis après, j'ai découvert d'autres styles de musique. Donc j'écoute aussi du rock, du classique, du jazz, des musiques étrangères. Voilà, de tout. De tout, c'est bien. Ça dépend de chaque moment, en fait. Ouais, mais tu sais, les études, ça va te permettre, en fait, de t'ouvrir plein de possibilités.
C'est pas bon, les études.
Comment ?
C'est pas bon, les études. Après le bac, j'arrête.
C'est pas grave si t'es pas fort. En fait, il faut que tu trouves ta voie. Et dès que tu l'as trouvée, eh ben, tu te sentiras à l'aise et l'envie de faire les études que tu as choisies et que tu aimes. Mais les études, vraiment, ça va te permettre d'avoir plus tard un choix au niveau des métiers. Et sans les études, malheureusement, tu vas pas avoir le choix.
Après le bac, il faut faire des grandes études, enfin, en médecin ou en apporte, en commerce ou quoi. Ah, il faudra passer des tests ou, comme vous avez dit, pour être médecin, il fallait passer des tests pour avoir le truc, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, le diplôme. Et ça prend du temps.
Ça prend du temps, effectivement, mais tu sais, tu as plein de possibilités. Il y a aussi l'alternance. L'alternance, ça te permet de travailler. Donc tu vois un petit peu le monde du travail, tu as de l'argent qui rentre tous les mois et puis tu continues les études. Et les études, faut pas voir ça comme une perte de temps. Si tu as trouvé la voie où tu te sens vraiment à l'aise, en fait, tu vas kiffer. Tu vas kiffer parce que c'est ce que tu aimes faire, tu vas le faire tous les jours. Alors que si tu fais pas d'études, tu vas peut-être te retrouver avec un métier où tu vas être obligé de le faire. Et tu n'auras pas le choix, et c'est dur de se lever tous les matins pour quelque chose qu'on n'aime pas. Alors que si tu fais des études, tu pourras le choisir plus facilement. Tu pourras te dire, moi j'ai ça comme diplôme, je peux faire ça, qu'est-ce que j'aimerais faire. Et c'est vachement stimulant le matin quand tu fais quelque chose qui te plaît. Donc vraiment, il ne faut pas le voir comme un parcours du combattant à passer des diplômes, à s'entraîner ou réviser pour les examens. C'est un petit moment de ta vie où il va falloir que tu te donnes à 100% dans un domaine que t'aimes. Ça passe très très vite pour plus tard, en fait, profiter.
Mais imaginons, on veut faire un métier, sauf que on est trop jeune pour avoir notre propre maison, appartement. Et du coup, le lycée, il est trop loin. Du coup, on ne pourra pas faire ça et on devra choisir un autre métier.
En France, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'aides pour la poursuite des études. C'est pas top, hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais par exemple, là, tu disais, si toi, tu habites dans une ville et il n'y a pas forcément l'école qui est dans cette ville-là, c'est compliqué. Du coup, tu vas te retrouver à faire une autre école proche de chez toi qui ne va pas forcément te plaire. Il y a aussi des aides financières pour avoir un logement étudiant. Il y a des internats. Tu peux aussi... Moi, par exemple, j'étais caissière en job étudiant pour avoir un petit peu d'argent, pour pouvoir payer les transports ou les autres choses. Je pense qu'il faut avoir déjà l'envie de faire le métier que tu as choisi. Et puis après, tu vois qu'est-ce que tu peux avoir comme aide. Mais il ne faut pas que tu te démoralises d'emblée en disant j'ai envie de faire ça, mais là, c'est un peu loin de chez moi. Du coup, je vais faire ça, mais ça ne me plaît pas. Ça va être... C'est dommage. Je trouve ça dommage.
Merci d'être venu jusqu'à nous, de nous consacrer du temps et d'avoir répondu à nos questions. Vos réponses nous ont éclairés.
C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir invité. J'espère que j'ai été assez claire.